I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. A pas lapin en triga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love. Une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Alors que son gynéco lui avait prédit qu'elle aurait de grandes difficultés pour avoir un enfant, Babette découvre sa grossesse à 26 ans et c'est le choc. Si elle pensait au départ que la maternité allait la freiner dans ses projets de vie, elle comprend vite tout le potentiel que cela révèle chez elle et au sein de son couple. 5 ans plus tard, elle donne naissance à son deuxième bébé, qui connaîtra une hospitalisation de quelques jours. Des émotions très fortes pour Babette, qui pense alors que sa famille est au complet. Finalement, plus le temps passe, et plus l'envie de devenir à nouveau maman s'accentue, Babette aimerait agrandir sa famille, mais tous les tests de grossesse affichent négatif. Dans cet épisode, Babette nous raconte ses débuts dans la maternité et tout son cheminement pour trouver sa place en tant que maman. Elle nous parle de l'arrivée de sa deuxième fille après 2 fausses couches, et de son désir d'avoir d'autres enfants sans que cela ne se concrétise pour le moment. Bonne écoute.
Bonjour Babette.
Bonjour Shade.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
C'est un plaisir.
Alors tu es la maman de 2 filles.
Oui.
Elles ont quel âge?
Alors Cerise a 12 ans et Salomé a 7 ans.
Et alors à quel moment est venu le sujet de la maternité au sein de ton couple?
Il est arrivé à moi. Ouais. Cerise est arrivée dans notre vie en 2008, donc je suis tombée enceinte en 2007. C'était pas forcément une grossesse souhaitée.
Comment tu l'as découvert?
Je l'ai découvert chez mon beau-père. C'est une de mes meilleures amies qui était à mes côtés et qui, elle, était déjà maman.
D'accord.
S'est rendue compte que mon comportement avait changé. Enfin, elle trouvait que j'étais beaucoup plus susceptible, plus dure dans mes réponses, chose que moi je n'avais carrément pas remarqué. Et elle m'a dit: je suis sûre que t'es enceinte. Et comme j'avais mes règles, j'ai dit qu'elle racontait n'importe quoi, que c'était pas vrai et tout. Et le lendemain, puisqu'on passait tous le week-end chez mon beau-père, le lendemain elle est partie à la pharmacie, elle est partie chercher un test de grossesse, elle est venue me réveiller, elle m'a dit: viens, on le fait et tout. J'ai demandé de me laisser tranquille. Elle m'a dit: mais vas-y, viens. On est parti dans la salle de bain. Elle m'a traînée dans la salle de bain. J'ai fait pipi sur le, sur le test et bingo, j'étais enceinte. Voilà comment je l'ai appris.
Et alors, comment t'as réagi?
Mais écoute, donc en 2007, j'avais 26 ans. Mm-hmm. Donc comment je l'ai pris? J'étais choquée. Je suis restée facile 10 minutes dans cette salle de bain sans réagir.
Ouais.
À réaliser ou à commencer à réaliser que dans mon ventre il se passait réellement quelque chose. Je me suis demandé comment j'allais le dire à mon chéri. Il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma tête, mais c'était confus.
Mmh.
Et j'en ai parlé à mon chéri qui était tout aussi choqué que moi à l'époque.
Parce que vous n'aviez jamais abordé ce sujet?
Si, on en avait parlé, mais on était jeunes, ça faisait 3-4 ans qu'on était ensemble et chacun vivait chez ses parents, on vivait pas encore ensemble.
Ouais.
On était ensemble, on vivait pas encore ensemble, on était étudiants encore, donc oui, on se projetait bien sûr, mais on se projetait pas au moment où ça nous est tombé dessus. Donc ouais, ça a été un coup ça a été très compliqué. Par contre, nous avions nos parents qui étaient super contents.
Ouais.
Et je pense que de voir nos parents super contents, ça nous a aidé, nous, à nous dire que c'était peut-être pas ce que l'on voulait, mais on sera soutenu. Et si eux sont contents comme ça pour nous, c'est peut-être parce que on se minimise. Je pense qu'on se voyait encore trop jeune. Mmh. On avait l'impression de ne pas avoir vécu assez notre jeunesse, alors que pas du tout, tu vois. Et surtout, je pense qu'on craignait que l'arrivée de cet enfant nous empêche de devenir ce que nous aspirions à être. Tu sais, on avait vraiment l'impression que, ben, avec l'enfant, on n'allait plus pouvoir sortir, on n'allait plus pouvoir voir nos amis, parce que c'était sûrement ce que l'on voyait, hein, autour de nous. Donc, ça nous a vraiment fait flipper. Et au final, flipper pour rien du tout, parce que c'est la naissance de Cerise qui nous a révélés. En tant qu'individu, en tant que parent, bien sûr, et en tant que couple, surtout.
Et alors, comment s'est passée cette grossesse ?
La grossesse s'est passée... Les 3 premiers mois, ça a été. Mmh. Ça a été, même les 4 premiers mois. Après, ça a été plus compliqué parce qu'elle grandissait pas comme il fallait. Elle grossissait pas, pardon, comme il fallait. Donc, pas mal d'examens, donc énormément de stress. Moi, je prenais pas de poids comme il fallait aussi. C'était vraiment une succession de petits trucs pas trop cool. Mmh. Mais on a tenu, on est arrivé jusqu'au bout et elle est née.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman? Justement, toi qui avais plein d'interrogations.
Déjà, j'ai fait mon cheminement étant enceinte. Okay. Ça veut dire que du jour où j'ai appris que j'étais enceinte de Cerise au jour où elle est arrivée, j'ai eu le temps d'accepter d'accepter que j'étais enceinte et surtout d'accepter ce rôle qui m'incombait maintenant, parce que tu deviens maman quand l'enfant est dans ton ventre. Ça veut dire que je faisais attention, je lui parlais pas mal. Quand on m'a parlé de sa prise de poids qui n'était pas comme il fallait, j'ai commencé à paniquer, à avoir peur. Avoir peur comme jamais j'ai eu peur. C'est-à-dire qu'habituellement, j'avais peur pour moi, ou pour mes frères et sœurs, mes parents, mon chéri, non, mais là, j'avais peur pour un être que je n'avais jamais vu, mais que j'aimais plus que n'importe qui, plus que moi-même. Donc, du coup, j'ai pris le temps, où heureusement qu'une grossesse dure 9 mois, parce que durant ces 9 mois, j'ai pu faire mon cheminement. Je ne veux pas dire que quand Cerise est arrivée, j'étais maman, non. Je suis devenue maman des années après, mais au moins... Je savais que c'était mon enfant et qu'il fallait que j'en prenne soin comme la prunelle de mes yeux et que je ferais de son monde le plus beau, du moins autant que je pourrais.
Et vous poursuiviez les études du coup en oui. même temps ?
Oui.
Donc t'as été enceinte à l'école ?
J'ai arrêté mes études pendant que j'étais enceinte et je les ai repris après. Ouais. Et la motivation était d'autant plus grande parce que pour le coup, là, je me réveillais le matin et j'allais en cours et je savais pourquoi j'allais en cours. Pour William, lui, il venait de finir ses études, il cherchait un job et il a trouvé son job 2 mois après la naissance de Cerise. Et aujourd'hui, il est encore dans la même boîte. Donc, quand je dis que Cerise est arrivée avec ses cadeaux, c'est qu'elle est arrivée... On était jeunes, on était immatures. Elle est arrivée en asseyant les choses, en nous faisant réaliser que, ok, on voulait faire notre vie ensemble. Que c'était bien beau la rigolade, mais qu'il fallait aussi être responsable, parce qu'aujourd'hui, on avait un enfant, on avait une responsabilité, cet enfant qui n'avait rien demandé. Et ça nous a permis de nous dépasser. Ça nous a permis de combattre ensemble les difficultés que l'on a rencontrées, parce qu'on en a rencontré pas mal, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient familiales, personnelles. Donc aujourd'hui, ces difficultés affrontées, celles que l'on aura demain, ne nous feront plus jamais peur, puisque on a traversé des choses compliquées ensemble et on était toujours ensemble après, avec cet enfant.
Oui, du coup, vous avez dû emménager ensemble d'ailleurs.
Exactement.
Avec l'enfant, où t'étais enceinte,
ouais.
Peut-être à ce moment-là.
Ouais. Ouais, ça a été pas mal de nouveautés et tout ça. Enfin, s'il fallait que je revienne en arrière, je referais tout pareil. Parce que ça m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui, d'être la maman que je suis aujourd'hui, d'être la femme que je suis aujourd'hui, pour mon mari pareil, parce qu'on en parle quand même souvent, Et ça me permet aussi d'être la future maman de ceux qui viendront, je l'espère, après.
Toi et ton chéri, vous aviez plein d'interrogations. Vous pensiez que ça allait arrêter votre vie de couple.
Ah, mais on avait des envies de voyage. On avait des... Parce que quand t'es étudiant, bah, t'as pas une thune. Donc, on se projetait dans notre monde idéal. On aurait fait le tour du monde. Et 30 ans, on se serait mariés. Et après, on aurait eu des enfants. Bon, on prévoit toujours des choses qui ne se passent jamais comme... voilà, on a tout fait à l'envers. Mais ouais, on se projetait pas mal et je pense que on ne se sentait pas prêt. Mais en même temps, je pense qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Moi, je pensais, je sais pas, je devais imaginer que j'allais avoir un déclic, le déclic de la maternité. Mais non, en fait, on n'a jamais ce déclic de la maternité. On l'a peut-être après avoir eu son premier enfant. On sait dire, bon, ben, je veux un deuxième enfant, je me sens prête. Mais pour le premier, en tout cas pour moi, à 26 ans, non, je me sentais jeune. J'étais jeune, mais j'avais envie de vivre plein de trucs. J'avais vraiment l'impression que Cerise, enfin, le bébé, allait tout stopper. Que j'allais être enfermée dans une case, dans la case de maman, les mamans que je voyais dans mon entourage. Et je pense aujourd'hui, avec le recul, que l'image qu'elle me renvoyait ne me plaisait pas. Mmh. Même qu'elle m'effrayait. Alors que...
Comment ça s'est passé, du coup, pour toi ? Par rapport à toute cette image que tu avais ?
Par rapport à... Au début, j'ai fait semblant d'être maman.
D'accord.
J'aimais mon enfant. Mais j'avais cette impression, ou du moins la société me donnait l'impression... qu'être maman, c'était faire ci, faire ça, comme ci, comme ça. Et à un moment...
Tu t'es oubliée, quoi, en fait.
Ouais, tu vois, j'avais le comportement que les gens attendaient de moi, mais je n'étais pas moi. À un moment, ben, j'ai pété un plomb, j'ai fait comprendre aux gens, laissez-moi tranquille, je n'ai pas accouché de cet enfant avec un mode d'emploi, laissez-moi vivre ma maternité comme j'ai envie de la vivre, et si réellement j'ai besoin de votre aide, je vous ferai signe. Mais les injonctions de ma mère, de ma belle-mère, qui ne faisaient pas mal, hein, parce qu'elles, ben, elles étaient contentes, elles aussi, c'était leur première petite fille, elles voulaient la protéger, je pense qu'elles me donnaient des conseils par amour, pour que je ne me trompe pas, tout ça, mais sauf que moi, je trouvais ça très oppressant, parce que j'arrivais pas à vivre les choses comme moi, j'avais envie de les vivre. J'arrivais pas à écrire mon histoire, j'avais l'impression d'écrire l'histoire de ma mère et de ma belle-mère. À un moment, non, c'était plus possible. Et donc, à partir du moment où j'ai mis le holà et où William a mis le holà aussi, ben, on s'est retrouvés, nous deux, face à notre enfant. On a eu plein de moments de solitude. Des moments où tu te dis, bon, comment ça se passe ? Bon, ok, d'accord, bon. Tu dois savoir ce que c'est. Mais à force de pratiquer, ben, tu prends tes habitudes, tu prends tes marques. Et tu te rends compte que t'es pas si nulle que ça en tant que maman. Tu te rends compte que ben t'assures même en tant que maman. Parce que t'es la maman de cet enfant-là. Et c'est que toi la maman de cet enfant. Mais c'est pas toute la terre. Donc tu commences à repérer les pleurs. Tu commences à repérer les horaires. Tu sens même quand ton enfant n'a même pas encore pleuré s'il va bien, s'il va pas bien. Et là, tu kiffes parce que tu te sens capable. Tu sais, ça te valorise. Donc, ces petits moments-là, ça m'a permis de prendre confiance et surtout de me dire que, ouais, j'adorais être maman. Et justement, pour ne pas m'enfermer dans une maternité que je n'aimais pas voir chez les autres, j'ai décidé, en fait, de voir du monde, de voir des amis. J'avais des amis qui, en plus de ça, avaient eu des enfants aussi... comme moi, à la même période, donc du coup, on s'appelait, on se partageait nos tips, on se partageait nos grands moments de solitude aussi. Donc, ça a décomplexé le tout. Tu sais, j'avais plus besoin de porter ce costume de maman parfaite. Non, j'étais pas une maman parfaite, de toute manière. Jamais je le serais. Et le fait de le partager avec mes amis, le fait de le partager avec mon chéri, le fait de le partager en couple, ça nous a permis à tous, je pense, de se dire « Ok, lâche prise, cool, c'est peut-être pas parfait, mais c'est fait. »
Et alors, quelques années plus tard, vous décidez de faire un deuxième enfant ?
Oui. on décide d'avoir un deuxième enfant parce que Cerise nous réclame D'accord. une petite sœur. Donc, entre Cerise et Salomé, il y a 5 ans. Mm-hmm. Donc déjà, on a eu de la chance que ce soit une fille parce qu'elle voulait une petite sœur. Ouais, j'ai quand même eu 2 fausses couches entre.
D'accord.
Et pareil, Salomé, donc, elle était attendue, son nom, je le savais déjà depuis... belle durette, que je voulais l'appeler comme ça, j'ai même pas laissé mon chéri choisir, c'était, voilà. Cerise, c'est lui qui a choisi, Salomé, c'est moi. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte de Salomé, je me rappelle que j'ai beaucoup pleuré de joie.
Dû aux fausses couches que t'as écrites.
Ouais.
Comment t'as vécu ces fausses couches
Très mal. C'est justement la raison pour laquelle j'ai beaucoup pleuré, parce que... faut savoir que vers l'âge de 17-18 ans... J'avais eu un examen gynéco et j'étais tombée, j'avais eu des examens très poussés parce que j'avais quelques soucis et le médecin qui m'avait ausculté m'avait fait comprendre, donc à moi et à ma mère, que avoir des enfants c'était peut-être pas pour moi en fait, que j'aurais du mal à avoir des enfants, tout ça. Donc nous on est une famille qui prions beaucoup, enfin la foi a une place très importante. Et dans la famille de laquelle je viens et aujourd'hui dans ma famille. Donc, ma mère, je sais qu'à l'époque, moi, ça avait été un choc. Et elle m'avait dit, mais non, mais t'inquiète, n'importe quoi. De toute manière, la médecine n'est pas une science parfaite. N'est pas une science parfaite, pardon. Seul Dieu sait. Enfin, voilà. Sauf que ma mère me disait tout ça, mais moi, c'était très flou. Donc, déjà, quand j'ai su que j'étais enceinte de Cerise, autant j'avais très peur. Mais autant j'étais rassurée de savoir que je pouvais porter la vie. Quand j'ai fait les 2 fausses couches, je me suis dit, ok, ce truc-là, il est revenu dans ma tête. Mmh. Je me suis dit, d'accord, en fait, c'est maintenant que je ne pourrais plus. Donc j'ai eu peur, vraiment peur. Et au bout de... Enfin, quand j'ai su que Salomé était dans mon ventre, j'ai beaucoup pleuré de peur, de joie et de gratitude aussi. Et je l'ai dit à mon chéri, qui avait vécu, en plus de ça, mal et fausse couche avec moi. On était super heureux, on a pleuré tous les deux. On était vraiment très heureux. On était vraiment, vraiment très heureux. Et on l'a annoncé rapidement à nos parents, à nos frères et sœurs, à Cerise qui était très contente. Et cette grossesse a été... Elle a été compliquée. Elle a été compliquée. J'ai vécu cette grossesse avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce que dès le deuxième mois, donc à l'époque, je travaillais en hôpital. Et c'était un dimanche. J'étais en train de faire mon tour. J'avais un étudiant infirmier avec moi. Et à un moment, il me dit, Babette, regarde par terre, quoi. Et j'avais une grosse vague de sang sur le sol. Je m'en étais pas rendu compte. Donc, j'étais à l'hôpital, hein, donc forcément, je suis montée très rapidement. Et on m'a dit, on arrête tout. Vous faites un décollement placentaire. Super. Donc, forcément, je me dis, ça y est, ça va recommencer. Mais sauf que là, ça va être pire.
Ouais, t'avais peur de faire une
fausse. Oh là là là, mais la culpabilité, surtout. C'est que je me suis dit, voilà, c'est parce que tu travailles, tu t'es pas écoutée, t'es inconsciente, tu sais que... La culpabilité que j'ai eue, mon Dieu. Donc, ouais, forcément, on m'a arrêtée. J'étais arrêtée, donc, de mon 2e mois à mon 9e mois.
Parce qu'on t'expliquait, toi, du coup, par rapport au décollement placentaire.
Ben, il fallait que je m'arrête parce que le décollement placentaire entraînerait la mort in vitro de mon bébé, quoi.
D'accord.
Donc, il fallait que je me repose. Fasse le moins d'efforts possible, que je reste allongée un maximum, que je m'hydrate bien, que je mange bien, bref, tout ce que je ne sais pas faire. comme je culpabilisais, j'ai tenu au mieux. Je suis quelqu'un de très actif, donc du coup, des fois, c'était compliqué. Et puis, je tournais en rond, quoi, à la maison. Mon chéri, il était au travail. Ma fille, elle était à l'école. Mes parents, à l'époque, ils avaient un commerce, c'était pas là. Mes soeurs, elles avaient leurs activités. Mes petits frères, ils étaient trop petits. Mes copines, autres... je tournais en rond.
Ouais, pendant 7 mois, oui.
J'ai vraiment tourné en rond. Et en plus de ça, Salomé rebelote, ne grossissait pas comme il fallait qu'elle grossisse. J'ai débuté une espèce d'anorexie. Ah ouais, mais en fait, c'est la peur. C'était très compliqué. Je ne m'alimentais pas, mais je ne m'en rendais même pas compte.
Ah oui.
Je ne mangeais rien, alors que de base, je mange bien. Et je ne mangeais pas. Je mangeais pas.
C'était trop d'angoisse.
C'était sûrement l'angoisse. C'était sûrement la peur de perdre l'enfant. Alors que je voulais. Je voulais protéger cet enfant. Je voulais pas la perdre, vu que j'en avais déjà perdu deux autres. Mais... je sais pas, j'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de manger et je me rappelle du gynéco, qui m'avait remonté les bretelles en me disant, écoutez, on va pas continuer comme ça, parce que c'est vous que vous mettez en danger, mais surtout l'enfant, quoi. Mmh. Donc, ouais, ça a été compliqué. J'ai recommencé à manger, on va dire, vers mon 6e, 7e mois. Pas en grande, grande quantité, mais à manger. Et au final, Salomé a repris du poids. Elle a grossi plus même qu'il ne le fallait. Donc au final, tout était rentré dans l'ordre. Et elle est née.
Comment se sont passés les premiers jours avec ta deuxième fille ?
Avec Salomé, j'ai à peine eu le temps. Parce qu'en fait, Cerise, je ne l'ai pas allaitée. Salomé, j'ai décidé de l'allaiter. Donc...
Pourquoi ce changement, d'ailleurs, entre la première et la deuxième ?
Parce que, étant plus jeune, j'ai eu une réduction mammaire.
D'accord.
Donc, le lait à l'arrivée de Cerise a mis plus de temps à arriver. Et donc, du coup, quand il est arrivé, elle était déjà sevrée au biberon. Tu sais, donc on a quand même essayé de lui donner le sein, mais elle le refusait. Alors, pour Salomé, je me suis dit, c'est mort. Je lui donne le sein. Et donc, du coup... elle est arrivée, le premier jour il y a eu l'allaitement, les 3-4 premiers jours il y a eu l'allaitement, j'avais fait un allaitement mixte, et le jour de la sortie de l'hôpital, on a le pédiatre qui vient faire l'examen de sortie donc à l'enfant, avant que tu rentres chez toi, et qui voit quelque chose. Donc il l'ausculte. Et je vois que son comportement change et il me dit « j'ai vu quelque chose, mais voilà, je le vois plus. » Donc, je lui dis « vous avez vu quoi ?» Il me dit « je sais pas, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, mais je le vois plus. » Donc, William me dit « non, mais arrête, Babette, arrête de psychoter. » J'ai dit « non, il a vu quelque chose, je veux savoir ce que c'est. » Et donc, il me dit « je sais pas, j'ai cru voir une boule, mais bon, surveillez à la maison, surveillez au domicile, et s'il y a quoi que ce soit, revenez. » Ok.
Il surveillait comment ?
Au niveau de laine, parce qu'en fait, il avait repéré une petite boule au niveau du pli de laine.
D'accord.
Et donc, il en avait repéré qu'une seule. Et donc, ok, on rentre à la maison, ça se passe, les premiers jours se passent bien. De toute manière, toute la période de la maison s'est bien passée, sauf qu'un jour, je la change, donc j'ouvre sa couche et je vois une grosse boule, en fait, localisée là où... où lui avait cru la voir. Donc je me dis, ben mince, je commence à avoir le cœur qui bat. On avait des gens qui étaient justement venus voir Salomé, donc j'ai refermé la couche, je suis redescendue avec la petite, j'ai fait comme si de rien n'était devant les gens. J'avais qu'une envie, c'était qu'ils se barrent, en fait. Dès qu'ils sont partis, donc j'ouvre la couche, je montre à Will, et en fait, il n'y en avait pas une, il y en avait deux. La deuxième était apparue entre-temps. Donc on file à l'hôpital, on dépose ce chez mes parents, je crois. On file à l'hôpital. À l'hôpital, on nous prend très rapidement puisque ben, c'était... Enfin, elle avait quoi 8 jours de naissance.
Ouais.
Et elle avait 8 jours. Et donc, du coup, on a la pédiatre qui vient nous voir et qui nous dit, écoutez, j'ai contacté mon collègue de tel hôpital qui va vous appeler pour vous recevoir demain. Enfin, c'est parti très, très vite. Donc, je lui ai demandé, attendez, ok. Nous ne sommes pas capables de gérer. J'ai dit, non, mais qu'est-ce qu'a ma fille, en fait ? Ok, vous n'êtes pas capable, vous nous transférez ailleurs, il n'y a aucun problème, mais qu'est-ce qu'il y a ? Donc, le médecin ne savait pas. Ça veut dire que pour lui, c'était quelque chose de grave, ok, c'était pas normal. Il suspectait deux choses, mais comme il savait que j'étais soignante, il n'avait pas forcément envie de me dire, de peur que je psychote. Donc, il m'a rassurée, du moins, il nous a rassurés en nous disant, écoutez, vous inquiétez pas, rentrez avec la petite à la maison, attendez sagement demain, on va vous appeler. On va vous appeler et là-bas, ils feront les examens nécessaires et ils vous poseront un diagnostic. Donc, je laisse imaginer la nuit qu'on a passée. le matin, on n'a même pas le temps d'ouvrir les yeux qu'on a un appel de, justement du collègue de ce médecin-là de l'autre hôpital qui nous dit, bah, écoutez, vous êtes attendu à 13h30 aujourd'hui. Ok, donc on va, moi, Willy et Salomé, Cerise manger à la cantine, donc voilà. Donc on se dit, bon, ça va être un examen de routine, ou au pire, ils vont nous expliquer, on va rentrer à la maison maintenant. On arrive, on est pris en charge. En fait, je fais partie de la famille, tu sais, je sais comment ça se passe à l'hôpital. Donc là, tout de suite, on nous reçoit. Aide-soignant, psychologue. Je me dis, mais c'est quoi le délire en fait? Pourquoi il y a tout ça? Donc William, je dis, c'est pas normal. Il me dit, mais non. Je dis, c'est pas normal. C'est pas normal là, qu'on nous reçoive comme ça. Il y a un... C'est quoi? Et donc, ils étaient très au petit soin avec nous. Ils nous emmènent dans une chambre. Donc, voici votre chambre. Je dis, mais à la base, je viens pas pour dormir dans votre hôpital. J'ai littéralement pété un câble. Je leur dis, moi, je viens pas dormir ici. On m'a pas dit que j'étais hospitalisée. Je viens ramener mon enfant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas d'affaires. On n'a pas les couches nécessaires. On n'a pas de biberon. On n'a rien. Pourquoi vous nous mettez dans une chambre? Vous êtes hospitalisée. Mais oh, mais.
Sans te dire pourquoi.
Ah là là là. Donc, mais. J'ai rien que d'y repenser, c'était chaud parce que ben on est totalement démunis. On arrive dans un service avec des gens qu'on ne connaît pas, on nous installe dans une chambre en nous disant qu'on est hospitalisé avec l'enfant, qu'on a toute une batterie d'examens à faire dans l'après-midi. Donc William va vite fait appeler... il n'avait pas encore appelé nos parents. Donc on s'est retrouvés dans une chambre assis avec une psychologue qui nous parlait, je ne sais même pas ce qu'elle me disait, avec l'aide-soignante qui était très dans l'empathie, limite même ça m'agaçait, tu vois. Donc on nous amène faire des radios, scanners, IRM, on perfuse mon bébé et tout, et j'avais dit c'est bon, stop, qu'est-ce qu'il y a? Donc ils nous ont dit qu'ils suspectaient une hernie ovarienne.
D'accord.
Donc ça veut dire que les ovaires se trouve donc à deux emplacements bien précis, sauf que les poches dans lesquelles elles devaient se trouver n'étaient pas forcément fermées, donc elles étaient sorties de leur emplacement. Et que le risque vital de mon enfant était engagé, et que si l'opération n'était pas faite dans les heures qui suivaient, elle mourrait.
Ah oui, d'accord.
Donc, et elle avait...
C'est de rien à...
8 jours.
Ah oui, d'accord.
Je crois que... Ben, sur le moment, j'ai dû perdre 6 kilos, enfin... donc ok, donc tu cherches, et le pire de tout c'est que on nous a dit ils suspectaient que ce soit soit une hernie ovarienne ou que ce soit des testicules.
Comment?
Ouais, ils savaient pas, tu vois. Et c'était donc là en même temps tu dis donc j'ai soit c'est des ovaires, donc on te parle d'hermaphrodite, donc c'est pour ça qu'il y avait le psychologue. Comme il ne savait pas, parce que c'est chaud quand même, tu vois. Donc, il va falloir que vous fassiez un choix. Si c'est comme si c'était, mais un film d'horreur. On a pleuré comme jamais on a pleuré. On est parti faire ce scanner et cet IRM en priant que ce soit... De toute façon, l'un ou l'autre, c'était... le risque vital était engagé. Okay? Mais si c'était l'autre... Donc, les testicules, il fallait choisir ce que l'on gardait pour notre enfant. Il fallait qu'on fasse le choix. Tu vois ce que je veux dire ?
Le choix de son sexe.
Le choix de son sexe. Donc, voilà. On est parti, scanner, IRM, et c'était des ovaires. Je me suis effondrée. Je me suis effondrée comme un bébé. Soulagée. Parce que, ben, elle s'appelait Salomé, tu vois. Soulagée de ne pas avoir ce choix horrible à faire, et même pas le temps de d'essuyer mes larmes qu'il fallait affronter l'opération. Donc le psychologue est venu nous voir en nous disant que c'était une opération lourde, qu'elle allait durer 6 heures, que normalement ça se passait bien, mais que, voilà, on ne sait jamais.
Parce que l'idée, c'était de remettre les... dans la petite poche,
ouais,
avec les ovaires.
C'était ça. Horrible. C'était horrible. Et,
donc, elle s'est fait opérer dans la foulée ?
Elle s'est fait opérer... oui, dans la foulée.
Ouais.
Elle s'est fait opérer dans la foulée. On est resté avec William dans la chambre pendant des heures et des heures sans se parler et à pleurer. J'ai pas réussi à l'accompagner, tu sais. Tu sais, on demande aux parents d'accompagner l'enfant jusqu'au bloc opératoire. J'ai pas pu, c'était au-dessus de mes forces. C'est William qui est allé. Moi, je pleurais déjà la mer et les poissons. William était resté très digne et tout. Et il s'est effondré une fois qu'elle est rentrée, en fait. Tu sais, au bloc opératoire, qu'il est revenu dans la chambre. Donc moi, je le vois pleurer, je me dis, ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh non, mais c'était... Oh, c'était horrible. On est resté là pendant de nombreuses heures. Et on réalise que, il faut appeler nos parents pour qu'ils puissent récupérer Cerise à l'école. Et surtout pour leur dire qu'on est à l'hôpital parce que Salomé, qui vient de naître, est en train de se faire opérer. Donc, on l'a fait. Donc, je crois que c'est ma belle-mère qui a récupéré Salomé, Cerise. Enfin, je sais plus. Je sais même plus comment ça s'est passé. Mes parents, c'est pas qu'ils m'ont crié dessus, mais ils m'ont dit, mais des moments comme ça, il faut nous dire directement, on débarque. Enfin, donc, je crois que c'est ma belle-mère qui avait récupéré Cerise puisque mes parents sont arrivés dès qu'ils l'ont su. Nos frères et sœurs qui nous ont appelés et tout, et c'est toute la famille qui est en suspens. L'opération s'est bien passée. Au bout de 6h30, on est venu nous dire que l'opération s'était bien passée et qu'il fallait que je rejoigne Salomé parce qu'il fallait que j'allaite. Et ça a été le plus bel allaitement de toute ma vie. Ça a été le plus bel allaitement de toute ma vie parce que elle était là. C'était une fille, elle était en forme, elle était en vie. Elle pourrait avoir des enfants après, parce que j'avais peur aussi. Donc, elle pourrait être maman et on pourrait rentrer avec elle, quoi. Enfin, parce que je n'aurais pas pu déjà vivre ça. Je n'aurais pas pu. Et il l'annonçait à Cerise. Non, j'aurais pas pu. Vraiment. Je suis émue quand je t'en parle, mais ouais, c'est petit bébé miracle. Alors aujourd'hui, elle fait les plus grandes bêtises du monde. Salomé est en forme aujourd'hui, ça va très très bien. Mais à cette période-là, ça a été et ça nous a d'autant plus renforcé, nous tous, déjà moi et Will, en tant que couple, en tant que parents. En tant que parents, en tant que famille, nous quatre, tu vois, en tant que famille, là, tu réalises vraiment que l'un d'entre nous aurait pu ne plus être là. Non, tu vois, donc, ouais, j'estime qu'on a été bénis. J'estime qu'on a été bénis, sauf que ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais, ça faisait... Donc, elle s'est fait opérer à 8 jours de naissance. Cette vague de stress a fait chuter mes hormones, mais d'un coup, tu vois, parce que les hormones, elles partent petit à petit. Ça fait chuter mes hormones d'un coup sec et j'ai déclenché une acné juvénile. J'ai donc été mise sous antibiotiques, donc arrêt de l'allaitement. Donc cette dernière fois où je lui ai donné mon sein, ça a été le plus bel allaitement de ma vie, de toute façon le seul, mais ça a été ces derniers moments les plus magiques. Et encore une fois, tu vois, j'ai l'impression que l'on m'a volé quelque chose.
Et alors là, deux enfants à la maison. Comment ça se passe?
C'était chaud. Ouais. C'était sport. Elles ont 5 ans d'écart. Donc, ça allait, dans le sens où Cerise était très autonome. Tu vois, à son âge, elle était déjà très autonome. On l'a quand même gardé 5 ans. On lui parlait comme une adulte, même si c'était une enfant. Enfin, elle a fait énormément de choses avec nous, donc... Tu sais, elle était très autonome. Donc, quand Salomé est arrivée, même si il y a eu cette petite vague de... elle refait un peu pipi au lit, où il y a un petit peu de jalousie, où elle a l'impression que son royaume s'effondre littéralement avec l'arrivée de ce deuxième enfant, elle a compris aussi très rapidement que, qu'elle avait sa place et que sa place était sa place, qu'on aimait sa sœur, mais on l'aimait elle aussi, qu'elle n'avait pas de jalousie à avoir par rapport à elle, que sa sœur serait son meilleur allié, Donc, au début, Salomé faisait ses nuits, ça allait. Et Cerise allait à l'école. tu vois, elle était scolarisée, donc je pouvais passer du temps de qualité avec Salomé, dormir aussi, parce que quand c'était 5h et qu'il fallait que j'aille récupérer Cerise, que je fasse à manger pour les enfants, j'avais qu'une hâte, c'est que la porte en bas elle s'ouvre et d'entendre bonsoir, que mon chéri revienne pour lui passer le relais. Et même s'il y a eu encore une fois de grands moments de solitude, ça a été, parce que William gère comme un prince pour le coup, il prend son rôle à cœur et je sais lui donner les enfants et me renfermer et lui... Ouais. Voilà, donc ça c'est cool, tu vois. On va dire qu'aujourd'hui, le fait qu'elles soient deux, elles ont grandi, ok, mais j'arrive moins à gérer leurs excès de colère ou leur prise de bec, tu vois. C'est plus aujourd'hui que... Des fois, je peux être dépassée que quand elles étaient plus jeunes.
L'adolescence est proche.
À qui le dis-tu ? Elle est déjà la même.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie complète à ce moment-là, quand tu as eu tes deux filles
Complète en tant que maman ?
Ouais.
À ce moment-là, non, j'avais pas envie d'un troisième, carrément pas, même, j'en voulais plus, j'en voulais que deux. À cette période-là, il s'est passé quoi dans ma vie ? Il s'est passé que j'avais besoin de changement. J'avais besoin de nouveautés. J'avais l'impression que je n'étais plus à ma place dans mon job. Ouais, j'avais l'impression peut-être d'avoir compris ce rôle de maman et de le jouer comme il fallait. J'avais l'impression aussi qu'en tant que chérie de... Ça se passait bien, du moins je me débrouillais pas mal, mais en tant que moi-même, j'avais l'impression d'être totalement perdue. Donc ça, c'est cette période-là que j'ai lancé mon blog, que j'ai décidé de partir à la rencontre d'autres femmes pour savoir comment elles aussi vivaient leur maternité. Est-ce que les questions que je me posais n'étaient propres qu'à moi ou est-ce qu'elles se les posaient aussi ? J'ai vraiment fait un vrai cheminement sur ma maternité à l'arrivée de Salomé. Vraiment, donc à cette période-là, je ne voulais pas avoir un troisième enfant, du moins je n'y pensais pas, mais par contre, ce que je voulais, c'était que je voulais être une femme épanouie pour pouvoir être une maman épanouie et une chérie épanouie.
Et alors, comment s'est fait ce cheminement ?
Ben, il s'est fait par le biais de Not Just Mom, le blog, par le biais de rencontres, par le biais de lectures, par le biais de témoignages, par le biais de très longues discussions avec mon chéri, parce qu'il fallait que je lui explique aussi que j'étais heureuse en tant que maman de Cerise et Salomé, j'étais heureuse en tant que chérie de William, mais que j'avais l'impression d'être inachevée en tant que Babette. Et si en tant que Babette j'étais inachevée, comment je pourrais être au max en tant que maman d'eux et chérie d'eux ? Donc il a compris. Il m'a même aidée, justement, dans ce cheminement-là. Et grâce à toutes les rencontres, grâce à tout ce que j'ai vécu depuis l'arrivée de mes filles jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, je te dirais que ouais, là, j'aimerais bien avoir un troisième, même un quatrième enfant. Au début, je me demandais si c'était un caprice ou non, mais je me vois bien être mère de 4 enfants. Pas de 3, pas de 5, mais de 4 enfants.
Du coup, vous essayez avec ton chéri pour l'instant
Ouais, ça fait longtemps qu'on essaye. On essaie encore.
Et
2017, j'ai refait une fausse couche. Je sais plus si c'est 2017 ou 2018. Je crois que c'est 2017. Enfin, en tout cas, 17 ou 18, j'ai refait une fausse couche.
D'accord.
Et à ce moment-là, j'ai réalisé que non, c'était mort. Je voulais pas rester sur cet échec-là et j'avais besoin. Donc après, effectivement, hein, j'ai deux filles, j'ai droit au c'est quand vous faites le troisième, un petit garçon, c'est très bien, ça m'a beaucoup saoulée, ça me saoule encore beaucoup. Surtout à l'époque, quand j'étais pas dans cette optique-là. Aujourd'hui, quand les gens le disent, c'est pas que ça me dérange, mais tu sais, il y a toujours un petit pincement. C'est comme si les gens pensaient que, c'était de l'égoïsme, en fait. Pas de l'égoïsme, mais comment t'expliquer ? Quand on vient te dire, il serait temps de penser au petit troisième, c'est comme si tu ne voulais pas, tu vois. Que tu étais bien dans ton petit univers, avec tes petites habitudes, et que non, 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 le troisième. Alors que le truc, c'est que je le veux, ce troisième, et je veux même ce quatrième. J'ai pas raconté ma vie à tout le monde, à leur dire, non, mais écoutez, on essaye, on n'y arrive pas, non, non. Donc du coup, aujourd'hui, quand on me dit cette phrase, ou quand on me fait cette petite réflexion, ou qui, pour ces personnes-là, est très anodine, hein, ben moi, tu vois, ça me...
Oui, ça te pique le cœur.
Ouais, ça me pique un petit peu, parce que... tu vois, on en revient à mes démons de 17 ans, tu vois. Ce que ce médecin a dit, et même si j'ai eu Cerise, même si j'ai eu Salomé, ben, j'ai quand même eu pas mal de fausses couches entre. Et encore une fois, aujourd'hui, je me dis, ben, peut-être que, même si j'ai envie, peut-être que vraiment, là, aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Donc, ouais, donc, ça m'effraie, d'autant plus que je sais que mon chéri... il est OK pour ce programme, ce projet de deux autres enfants, tu vois. Et le fait de ne pas réussir à garder ses grossesses, ben, je pense qu'il y a un petit peu de culpabilité. C'est même pas, je pense, c'est sûr, je culpabilise un petit peu parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de ma faute, puisque c'est moi qui porte ses grossesses, tu vois. Donc,
Du coup, vous avez fait des tests, un suivi médical,
non,
pour le moment?
Non, on n'en a jamais parlé. Je t'avouerais que j'ai pas forcément envie de... Aujourd'hui, hein, du moins, j'ai pas envie de médicaliser tout ça. Pas pour l'instant. Tu vois, j'essaye encore de... Enfin, on continue, tu vois, à essayer. Et je veux y croire, voilà. Je veux y croire et advienne ce qu'il adviendra. Si il n'y a pas numéro 3 et numéro 4, c'est que c'était pas pour nous. Mais j'ai pas envie d'aller voir un médecin... Je respecte beaucoup les femmes qui ont ce courage d'y aller, de se dire « Ok, d'accord, là, il y a un problème. Enfin, » Je les respecte énormément. J'ai énormément, mais énormément de respect pour ces femmes, si tu savais. C'est un courage que moi, je n'ai pas aujourd'hui. Et je le dis en toute honnêteté. Peut-être que je l'aurai un jour. Peut-être pas, j'espère pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne l'ai pas.
Et du coup, tu peux en parler à tes proches du fait de ne pas réussir à avoir de troisième. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi une culpabilité de se dire... tu as fait un post sur Instagram, justement, et voilà, de se dire que peut-être il y a des femmes qui n'arrivent pas du tout et que toi, entre guillemets, tu n'aurais pas le droit de te plaindre parce que tu as déjà deux enfants.
Ben, en toute honnêteté, je sais, que, bon, je sais hein, de toute façon, de par ma profession et par plein de trucs, oui, il y a des femmes qui sont stériles et qui n'ont pas d'enfants. Et c'est triste. On vient d'en parler. Il y en a qui passent par la PMA, d'autres qui vont passer par l'adoption. Enfin, c'est malheureux pour elles, mais les femmes qui ont des enfants et qui aujourd'hui vivent ces épisodes de stérilité, entre parenthèses, elles n'ont pas à culpabiliser de...
d'en parler.
Ouais, elles n'ont pas à se cacher, elles n'ont pas à ne pas dire qu'elles ont envie encore une fois d'avoir un autre enfant, parce que ben, c'est triste, mais enfin, c'est chacun son fardeau, tu vois ce que je veux dire? Même si effectivement il y a des femmes qui n'y arrivent pas, on a de l'empathie pour ces personnes-là, mais ça n'empêche qu'on ne vit pas la même vie. C'est pas la même histoire de vie que l'on écrit, donc elles n'ont pas à culpabiliser, et je ne culpabiliserai pas de le dire, justement. Chacune son histoire. Donc, les femmes doivent exprimer ce qu'elles ressentent, doivent dire ce qu'elles ressentent sans avoir peur des foudres des autres. Après, peut-être que oui, elles vont se manger des réflexions. Moi, je ne m'en suis pas mangée, mais j'ai des amis qui s'en sont déjà mangés des réflexions. Et j'estime que ce n'est pas normal. On ne peut pas reprocher à quelqu'un la peine que l'on vit. Ce n'est pas parce qu'on a deux enfants que l'on doit s'en contenter. Parce que l'autre à côté en a zéro. Non.
Et est-ce que tu en parles avec tes filles?
Alors, je leur ai pas dit que je n'arrivais pas à avoir un troisième enfant. Par contre, je leur ai dit que j'aimerais un troisième, voire un quatrième. Cerise est au bout de sa vie. Et Salomé, oui, si c'est des filles, comme ça, elle pourra jouer avec.
D'accord, non. Mais c'est pas pareil, c'est pas un sujet qui est abordé, les fausses couches et tout ça.
Non, je n'en ai pas parlé avec les filles. Non. Déjà, Salomé, je pense qu'elle comprendrait pas forcément, même si je lui explique, mais j'ai pas envie de. Tu sais, que ce soit source de stress pour elle. Parce que si j'en parle, il suffit que je verse une larme, elles vont se dire que c'est quelque chose qui attriste maman, donc bah, ça va les attrister aussi, elles vont être. Ah non. Non, c'est des enfants, on va les laisser avec leurs problématiques d'enfants. Et ça, on gère nous comme des gants.
Et elle vient d'où, d'après toi, cette envie d'avoir d'autres enfants ?
Toute l'histoire qui s'est passée avec Salomé, ce qui s'est aussi passé avec Cerise, tu sais, le fait d'avoir cette grossesse qui me tombe sur les mains alors que je n'étais pas forcément prête, l'allaitement de Salomé qui a été écourté, celui de Cerise qui n'a même pas pu commencer, tout ça me donne envie de... Même pas envie, tout ça me pousse à espérer une troisième et une quatrième grossesse et maternité dans lesquelles je pourrais être épanouie et dans lesquelles je pourrais vivre chaque moment comme je rêve de les vivre. Mmh. Tu vois, que la maladie, le drame ou n'importe quoi viennent ébranler ces moments qui sont juste exceptionnels. Parce que ben, au début, l'allaitement, ça fait ultra mal. Mais quand ça fait plus mal, c'est une sensation indescriptible. T'as l'impression d'être totalement connecté à ton enfant. Et ça, ça m'a manqué, ça me manque encore, tu vois. Donc j'aimerais le vivre une troisième et une quatrième fois.
Tu peux vivre la grossesse parfaite.
Je sais pas si c'est la grossesse parfaite, mais du moins celle dont je rêve moi. Mmh. Tu vois, celle... Enfin, les deux... avec les deux, il y a eu... Il y a eu de très bons moments, mais il y a aussi eu ces lots de complications, de stress, de peur, de larmes.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Ça m'a révélée en tant que femme. Ça m'a permis de me découvrir. Ça m'a permis de savoir ce que je voulais dans la vie. Ça m'a permis de savoir ce que je ne voulais plus. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Ça m'a permis de m'aimer telle que je suis. Ça m'a permis... de faire la différence entre le perfectionnisme et l'excellence. Ça m'a appris la patience, le courage, l'amour, la sagesse. Enfin, moi, la maternité m'a changée. Alors, bien sûr, il y a des trucs qui t'emmerdent, qui te font chier, il y a des trucs, voilà. Mais s'il fallait prendre une feuille et établir les listes, je pense que le côté positif serait beaucoup plus chargé que le côté négatif. Parce que même quand t'es saoulé, même quand des fois ils font du bruit, que voilà, t'as envie d'envoyer tout valser, il suffit qu'ils viennent te faire un sourire ou te raconter du n'importe quoi ou te faire un câlin, ben tu fonds en fait. Et t'oublies littéralement tout ce qui t'emmerdait la minute d'avant. Donc moi ça m'a changé et j'espère que ça va continuer à me changer. Parce que... Ben avec Cerise, chaque jour est un apprentissage. Et avec Salomé, les apprentissages que j'ai eus avec Cerise sont des fignolements. Tu vois ce que je veux dire ?
Tu réajustes.
Ouais, tu réajustes, tu lâches prise et tout ça. Donc, que ce soit la maternité que je vis avec Cerise, que ce soit la maternité que je vis avec Salomé, je kiffe. Franchement, je kiffe. Je kiffe et j'ai hâte de savoir la femme que je serai, ne serait-ce qu'à la fin de l'année, parce que ce ne sera pas la même que le 1er janvier 2020. Parce qu'elles auront évolué et elles m'auront fait évoluer avec elles. Et voilà.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ok, c'est parti.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
C'est une maman très ouverte d'esprit, qui fait bien le parallèle entre sa vie de maman et sa vie de femme, qui ne s'oublie pas, qui donne le meilleur pour ses enfants, mais qui garde aussi le meilleur pour elle. C'est une maman bien dans ses baskets.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré ?
Le 104. J'ai beaucoup emmené mes filles et c'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement. Le 104, je dirais.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Ah, projet rien que pour moi. Me retrouver avec mes copines. Ouais. Et passer une très bonne soirée ou journée. Me retrouver avec mes copines. Moment en famille, le prochain, bah, c'est partir en vacances. Ouais. On a hâte, on attend avec impatience le jour du départ en vacances. Tous les quatre. Voilà.
Merci beaucoup, Babette.
De rien, Shane.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un avis sur iTunes ou sur votre application de podcast. Et rien de mieux que le bouche à oreille, alors n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Pour échanger sur le sujet abordé avec Babette, retrouvez-nous sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode pour parler de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.